Bonjour. Il avait été condamné au civil, il est relaxé au pénal. Bernard Tapie, comme l'ensemble des protagonistes de l'affaire Crédit Lyonnais, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris pour lequel aucune escroquerie ne peut être démontrée. L'ancien ministre était accusé d'avoir bénéficié de façon frauduleuse du fameux arbitrage lui accordant plus de 400 millions d'euros qu'il a d'ailleurs été condamné à rembourser par ailleurs. Mais c'est un immense soulagement de voir mon innocence totalement reconnue, a commenté pour la Provence Bernard Tapie, invité de ce journal le juriste professeur de droit à la Sorbonne, Thomas Clay. Une écotaxe sur le transport aérien, elle concernera tous les vols au départ de France dès 2020.
Elle sera progressive et représentera une contribution de 1,50 € par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique et pourra aller jusqu'à 18 euros hors Union européenne en classe affaires.
Voilà, à l'issue du Conseil de défense écologique réuni à l'Élysée ce matin, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle annonce aussi une réduction des remboursements sur le gasoil pour les transports routiers de marchandises. Une journée de plus pour les épreuves de rattrapage du bac qui se poursuivront demain matin. Demain donc, en principe, tous les lycéens seront fixés sur leur sort. La Fédération des conseils de parents d'élèves met en place une cellule de conseil pour les parents qui voudraient poser des recours. Dans ce journal également, le grand oral des candidats à La République En Marche pour Paris tout à l'heure. Des fuites diplomatiques sur fond de guerre des chefs chez les Tories à Londres. Les moustiques tigres qui colonisent progressivement la France. Il faut préparer notre système de santé aux maladies virales que sont la dengue ou le chikungunya, nous dira Daniel Messager dans sa chronique Santé. Enfin, un Français en jaune sur les routes du Tour. Tous les regards seront bien sûr tournés ce mardi sur Julian Alaphilippe entre Reims et Nancy. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Du côté de la météo, ça reste orageux au sud.
Oui, des Pyrénées jusqu'aux Alpes, averse, orage, parfois un petit peu de grêle. Juste un risque d'ondée du Languedoc à la Côte d'Azur et en Corse. Ailleurs, beaucoup de soleil. Il fait moins chaud qu'hier, 21 à 26 degrés près de la Manche, sur le sud-ouest également, et 25 à 31 ailleurs, jusqu'à 34 en Corse.
Le bulletin météo, bien sûr, en fin de journal.
France Inter.
Mon cancer vient d'en prendre un sale coup dans la gueule. Le cri du cœur de Bernard Tapie tout à l'heure, juste après l'annonce de sa relaxe dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. Il avait été condamné au civil, il est donc relaxé au pénal. Le tribunal correctionnel de Paris a d'ailleurs prononcé une relaxe générale pour tous les protagonistes de l'affaire, dont aussi le PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui était poursuivi pour complicité d'escroquerie. On se souvient de l'histoire qui remonte à 2008. Bernard Tapie disait avoir été floué par le Crédit Lyonnais au moment de la vente d'Adidas. Il s'était vu accorder, après de multiples péripéties, un peu plus de 400 millions d'euros de dédommagement grâce à une commission d'arbitrage demandée par le gouvernement de l'époque et que Bernard Tapie était donc accusé d'avoir obtenu frauduleusement. Le tribunal correctionnel de Paris a donc jugé différemment du civil, Charlotte Piret.
Oui, relaxé par manque de preuves. Voilà en substance qu'a considéré le tribunal correctionnel de Paris, pour qui aucun élément ne permet d'affirmer qu'il y a bien eu escroquerie. Alors, c'est le soulagement sur les bancs de la défense. Maître Hervé Temim, avocat de Bernard Tapie, essuie quelques larmes avant d'être appelé par son client. Pas présent ce matin car il subit de nouvelles séances de chimiothérapie pour combattre les deux cancers qui le rongent. Bernard Tapie était très ému, confie Maître Temim à la sortie d'audience.
Nous l'avons dit, nous nous battions d'abord pour son honneur. Cette procédure, je parle du contentieux Adidas, c'est une procédure folle, qui dure depuis des décennies. On n'en est pas encore au bout. Mais aujourd'hui, c'est l'étape la plus importante qui a été franchie. C'était le moment décisif que nous attendions, et on nous a donné raison. Ça suffit à notre joie.
Toutefois, et c'est toute la singularité de cette décision de relax, dans ce même dossier, alors que Christine Lagarde a été reconnue coupable par la Cour de justice de la République, Bernard Tapie reste, lui, condamné par la justice civile, comme le rappelle Maître Benoît Chabert, avocat de partie civile.
Ce qui est intéressant, c'est que la fraude civile, qui est toujours présente, qui est donc définitive, le fait que Bernard Tapie, sur le plan civil, doit payer 402 millions d'euros, ça c'est définitif, ça n'a pas été qualifié de fraude pénale. C'est le jeu de la justice.
Et le jeu de la justice, c'est aussi la possibilité, voire grande probabilité, d'un appel du parquet de Paris qui relancerait une nouvelle fois l'affaire Adidas Crédit Lyonnais devant les tribunaux.
Charlotte Piret au tribunal avec Lucien Lefebvre, le parquet de Paris qui avait requis, rappelons-le, 5 ans de prison ferme contre Tapie et 3 ans, dont 18 mois ferme, contre Stéphane Richard. Stéphane Richard qui était à l'époque le directeur de cabinet de la ministre Christine Lagarde et qui ce matin, bien sûr, lui aussi se disait soulagé.
J'ai vécu pendant des années avec des accusations portées contre moi, dont je me suis toujours défendu avec la plus grande vigueur. J'ai subi tout ce qu'une procédure comme celle-là peut représenter. également aussi dans le cadre de mes fonctions. Et donc aujourd'hui, c'est un immense soulagement de voir mon innocence totalement reconnue par ce tribunal. Au fond, le tribunal a dit ce que nous disons, nous les prévenus, et moi en particulier, depuis 6 ans. Bien évidemment, c'est pour nous une très grande satisfaction de voir la justice dire avec la plus grande netteté que ce recours à l'arbitrage a été fait de façon légale et de façon légitime.
Stéphane Richard au micro de Charlotte Piret, en rappelant que la ministre de l'économie, Christine Lagarde, avait été reconnue coupable de négligence, mais dispensée de peine. Dans cette relaxe générale prononcée ce matin, sont aussi concernés l'avocat de Bernard Tapie à l'époque, Maurice Lantourne, et l'un des 3 arbitres de cette fameuse commission d'arbitrage, Pierre Estoupe. Invité de ce journal, le juriste professeur de droit à la Sorbonne, Thomas Clay, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialiste du droit de l'arbitrage, une réaction à cette relaxe générale?
Écoutez, moi, dans cette affaire, je n'ai cessé de saluer les décisions de justice qui ont été rendues depuis maintenant de nombreuses années, et donc il ne faut pas attendre de moi que je ne salue pas celle-ci, d'autant que je la trouve exemplaire dans sa formulation et dans sa rédaction. Elle fait 246 pages, tout le dossier est revisité, et la justice s'honore quand elle rend des décisions comme celle-ci, et je dois dire qu'elle tient pour beaucoup à la défense exemplaire de Bernard Tapie. Je crois qu'il faut le saluer. Maintenant,
oui, comment expliquer cette différence avec le civil?
Voilà, le civil et le pénal, c'est pas la même chose. Donc, il faut pas confondre, et je peux comprendre que pour les auditeurs, ça soit un peu compliqué, mais il faut pas confondre le civil. La Cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation, ont estimé de manière définitive qu'il y avait bien eu une fraude civile à l'arbitrage, qui nécessitait d'annuler la sentence arbitrale et de restituer les sommes. La justice pénale
plus exactement que le tribunal d'arbitrage n'était pas justifié. Il n'était pas justifié d'en passer par là. C'est ce que voulait dire le civil.
Non, la décision de la Cour d'appel de Paris du 17 février 2015 dit bien qu'il y a une fraude civile. Et donc revisite la sentence arbitrale, et puis une décision postérieure de la même cour d'appel de 2016 va nous dire qu'il n'y a pas eu du tout d'escroquerie au sens civil de la part du Crédit Lyonnais, mais au contraire une manipulation de la part de Bernard Tapie au civil. Le juge pénal estime, lui, que ça ne va pas jusqu'à l'escroquerie pénale.
En tout cas qu'il n'y a pas de preuve.
Il n'y a pas de preuve, et la rédaction de la décision est quand même assez exemplaire dans le rejet systématique des différents éléments, sauf d'ailleurs une réserve sur ce qui concerne l'indépendance subjective de l'arbitre Pierre Estoupe. Donc, au fond, l'état du droit aujourd'hui est très simple. Bernard Tapie doit rendre l'argent parce que la sentence arbitrale a été annulée et qu'il n'y a pas eu de fraude dans la sentence arbitrale, mais il n'y a pas eu d'escroquerie et donc personne ne va en prison. Et au fond, est-ce qu'on ne doit pas s'en réjouir?
Donc, tout est pour le mieux dans la meilleure des justices.
La justice a fonctionné et je crois que il faut s'enorgueillir. Simplement, si je peux faire quand même une réserve, puisque j'ai assisté à un certain nombre des audiences, il me semble que d'ailleurs, dans tout ce dossier, depuis l'origine, l'État n'a pas été à la hauteur de la défense qu'il aurait pu déployer. Je pose une question. Pourquoi est-ce que les avocats qui ont gagné au civil ont été écartés au pénal par l'État? On a quand même le sentiment, et je ne remets pas en cause la décision de justice qui, encore une fois, est exemplaire, et je ne remets pas non plus en cause la qualité de la défense de Bernard Tapie. Mais j'ai quand même le sentiment qu'une fois de plus, l'État n'a pas défendu ses...
Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Rappelons que vous aviez milité contre cette procédure de l'arbitrage.
Moi, je suis intervenu sur l'aspect civil, c'est-à-dire sur l'annulation de la sentence arbitrale. Et puis après, il y a eu d'autres avocats qui se sont emparés du dossier, et c'est très bien ainsi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les avocats qui étaient au cœur du dossier civil, je parle pas de moi évidemment, je parle des avocats qui étaient au cœur du dossier civil, ont été écartés, et moi j'ai eu le sentiment, dans tout ce dossier, et je remets pas en cause les avocats eux-mêmes, mais plus exactement la défense de l'État qui n'a pas été à la hauteur de ce que justifiait un dossier comme celui-ci. Voilà, je trouve que les audiences ont montré un déséquilibre entre les 30 avocats d'un côté et les 2 avocats de l'État, et j'ai le sentiment que l'État aurait pu mettre davantage de moyens. Ça ne veut pas dire qu'il aurait gagné, mais ça veut dire qu'en tout cas, il aurait pu probablement développer des arguments encore plus pertinents.
Les vraies responsabilités sont politiques.
Politique, je ne sais pas. J'ai toujours considéré que ce dossier n'était pas un dossier politique, mais un dossier juridique. Sauf qu'il est emblématique de l'histoire française contemporaine, puisqu'il dure depuis 1993, et qu'il a traversé d'ailleurs toutes les alternances politiques, ce qui tient à la personnalité de Bernard Tapie.
Et l'histoire n'est pas finie.
Il y aura probablement un appel, puisque je rappelle quand même que dans ce dossier, les magistrats, notamment instructeurs, trois magistrats instructeurs, ont rendu une ordonnance de renvoi particulièrement motivée, de 400 pages, que le parquet a requis, des peines lourdes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont estimé qu'il y avait des indices suffisamment forts. Mais le juge du siège, le juge souverain, le juge indépendant, a décidé le contraire. Et encore une fois, il faut saluer cette décision de justice.
Thomas Clay, professeur de droit, spécialiste du droit de l'arbitrage à la Sorbonne. Vous parliez d'affaires politiques emblématiques de l'histoire contemporaine. Et bien justement, réaction ce matin du côté de l'Assemblée nationale du patron du groupe Liberté et Territoire, le centriste Philippe Vigier.
Il ne faut pas être dans l'écume des vagues. Moi, je fais partie des députés qui, en 2008, ont auditionné Bernard Tapie sur cette affaire-là. J'étais en désaccord avec lui sur un certain nombre de questions. Sa carrière politico-économique, avec ses fusions-absorptions, n'était pas le plus bel exemple qu'on puisse donner, tant s'en faut. Il vous dira qu'il a sauvé plein de boîtes, mais il a mis combien de salariés aussi au chômage. Après, on en est à 26 ans d'épisodes juridico-politiques. 26 années. Ça a commencé en 93, tout cela. J'ai pas d'affection pour l'homme Bernard Tapie. J'ai pas eu d'affection non plus pour l'homme politique. J'ai pas d'affection pour celui qui a trafiqué les matchs de football. Tant s'en faut. Mais une fois qu'un tribunal correctionnel s'est prononcé, de façon claire, formelle, eh bien écoutez, cette décision, je l'entends.
Philippe Vigier au micro de Maxence Lambrec.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamps.
Une éco-contribution sur le transport aérien, c'est l'annonce choc de cette matinée à l'issue d'un nouveau conseil de défense écologique réuni à l'Élysée. Une éco-taxe sur tous les vols au départ de la France qui serait mise en place dès 2020 et pourrait rapporter 180 millions. Cyril Graziani, une annonce surprise de la ministre des Transports Elisabeth Borne.
Ah oui, clairement, ça s'appelle un effet de surprise, une écotaxe sur les billets d'avion. Cette mesure a été annoncée par Elisabeth Borne à l'issue du Conseil de défense écologique avec cette volonté claire, dit-elle, de faire contribuer le secteur aérien.
Elle sera progressive et représentera une contribution de 1,50€ par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique et pourra aller jusqu'à 18€ sur un vol hors Union européenne en classe affaires. Elle s'appliquera à toutes les compagnies au départ de la France, quelle que soit leur nationalité, de sorte qu'il n'est pas question que notre pavillon national s'en trouve désavantagé. Par ailleurs, nous ne prévoyons pas que cette éco-contribution s'applique aux vols en correspondance, aux vols intérieurs au départ ou vers la Corse, les Outre-mer, ni sur les liaisons d'aménagement du territoire.
Une éco-contribution qui rapportera 180 millions d'euros servant au financement des transports du quotidien, notamment ferroviaires, les RER, autour des métropoles d'ici 2030. Avec cette mesure, le gouvernement veut montrer qu'il a compris l'urgence écologique et aussi les leçons des élections européennes qui a vu la percée des écolos. Emmanuel Macron avait multiplié jusque-là les slogans « Make our planet great again », les discours dans les organisations internationales. Avec cette mesure bien concrète, le chef de l'État veut convaincre qu'il peut incarner l'écologie.
Cyril Graziani à l'Élysée avec Mathieu Perrault. Autre annonce de la ministre des Transports ce matin, la réduction du remboursement partiel dont bénéficie le transport routier de marchandises sur le gasoil, qui sera donc réduit de 2 centimes par litre, là aussi dès 2020. Contribution qui devrait rapporter cette fois 140 millions en année pleine. À ce chapitre environnement, tant qu'on y est, après la canicule, voici la sécheresse. 41 départements sont en vigilance sécheresse. Les désordres climatiques, ça devient décidément une habitude et c'est la raison pour laquelle une mission d'information du Sénat propose de revoir le système des indemnisations. Face aux sinistres de plus en plus nombreux, il apparaît que le régime d'assurance n'est plus du tout adapté. Célia Quiret, les sénateurs ont fait le tour de la question et le constat est évident.
Oui, les vagues de chaleur, les inondations, les périodes de sécheresse, ces aléas climatiques sont en nette augmentation. Au total, d'ici 2050, le montant des sinistres liés aux catastrophes naturelles va augmenter de 50%. Les primes versées par les assurés montent en flèche et si on garde les systèmes d'indemnisation actuels, toutes les victimes ne seront pas couvertes. Le régime de catastrophe naturelle est incompréhensible et injuste, il faut donc le réformer. Nicole Bonnefoy est sénatrice PS de Charente, elle a pu constater le désarroi de certaines familles.
Je pense en particulier aux sinistrés de la sécheresse, hein, avec les maisons fissurées, qu'on appelle fissurées, et qui, eux, obtiennent beaucoup plus difficilement une reconnaissance en catastrophe naturelle et qui sont donc désemparés puisque l'aléa n'est pas couvert. Hein. Donc il faut réformer ce régime en profondeur, l'adapter à la réalité d'aujourd'hui. C'est un régime qui date de 82 et donc en 82, les aléas climatiques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Donc il faut le réactualiser, le rendre plus transparent, plus efficace, plus solidaire.
Et puis il y a un problème pour les agriculteurs, les viticulteurs, exemple ceux dont les vignes ont brûlé les jours passés à cause des températures records de 45 degrés dans le Gard. Tous ne sont pas couverts par le régime des calamités agricoles, il faut donc les aider à mieux s'assurer et il ne faut plus par exemple que les agriculteurs qui ont des cultures diversifiées soient lésés. Enfin, les sénateurs attirent l'attention de l'État sur la protection des littoraux. Trop de constructions sont encore autorisées dans des zones à risque. Bref, la politique de prévention des risques n'est pas à la hauteur du dérèglement climatique.
Célia Quiret, pour conclure tout à fait ce chapitre, une information de France Bleu Sud-Lorraine. 37 000 personnes ont signé la pétition contre l'abattage du seul loup présent en Meurthe-et-Moselle. Les signataires demandent au préfet de revenir sur sa décision d'autoriser un tir de prélèvement, comme on dit. Dans le feuilleton du bac, un nouvel épisode, nouveau rebondissement ce matin au lendemain des premières épreuves de rattrapage. On apprend que les dites épreuves se poursuivront encore demain matin, compte tenu des circonstances et des nombreux cas de figure. On va y revenir. Plus de 100 000 lycéens avaient été convoqués aux oraux sans avoir eu connaissance pour certains de leurs notes à l'examen. Situation très inhabituelle, avec d'abord cette situation hier à Grenoble où des lycéens ont finalement appris qu'ils avaient leur diplôme. Lila Lefebvre.
Gabriel a quand même un peu de mal à y croire et sa famille aussi.
Oui, Gab.
Oui, allô, mamie?
Oui.
Oh, tu veux une bonne nouvelle ou pas? Bah, du coup, j'ai mon bac. En fait, ils s'étaient trompés sur mes notes.
C'est pas vrai.
Eh ben ouais.
Alors pas tout à fait, Gabriel fait partie des 700 élèves de l'Académie de Grenoble dont les copies n'avaient pas été rendues à temps. Il se préparait donc à passer l'oral de philo pour valider son bac ES.
Et là d'un coup la proviseure adjointe elle rentre dans la salle et elle nous dit bah du coup vous avez votre bac et vous pouvez sortir.
Même ascenseur émotionnel pour Thomas, aussi en terminale ES et aussi recalé en philo.
Moi je pensais avoir le bac, je vois mon nom sur la liste des rattrapages, j'étais dégoûté. Après tout le week-end faut bosser un peu, la pression elle commence à monter et tout mais après... Là, voilà.
Si je peux vous faire une petite métaphore, c'est aussi beau qu'un but à la 90e voilà, plus 3 exactement. Sur FIFA, là, c'est la même chose.
Un peu plus loin sur le trottoir, Benjamin renonce, lui, à la troisième mi-temps. Il doit bien passer les épreuves de rattrapage, mais il va avec philosophie.
Et du coup, bah, moi, ça me fait rire forcément de voir qu'ils viennent en cours pour rattraper, qu'eux aussi, ils ont sacrifié leur week-end et qu'ils apprennent qu'ils ont leur bac. Ça résume assez bien le bac en général de cette année. C'était un petit peu le bazar et voilà.
Mais ça, je les pardonne.
Voilà, un petit peu le bazar. Les épreuves du bac ne seront pas officiellement terminées donc ce soir. Des élèves sont convoqués demain matin. Les derniers jurys seront réunis dans la foulée. En tout cas, on commence à y voir un peu plus clair, Sonia Princet.
Oui, après 4 longues journées d'incertitude, tous les candidats qui avaient encore des notes provisoires ont leur note définitive depuis ce matin 10h. Pour les élèves qui ont obtenu le bac vendredi dernier, ça ne change rien. On ne revient pas sur leurs résultats, même s'ils sont moins bons. Pour ceux qui devaient passer le rattrapage, il y a eu, on l'a entendu à l'instant, de bonnes surprises. Certains élèves avaient en fait déjà tous leurs points. Et puis, dernier cas de figure, avec ces candidats à qui on avait annoncé vendredi qu'ils n'avaient pas le bac. Coup de théâtre dès hier soir ou ce matin, on les a prévenus qu'ils pouvaient passer le rattrapage. Le ministère précise qu'il s'agit d'une minorité de candidats, mais un délai supplémentaire leur a été accordé pour réviser. Ils passeront les oraux demain. Les dernières délibérations des jurys auront lieu dans l'après-midi. Clôture de la procédure demain soir. Les résultats au niveau national seront publiés jeudi. On verra enfin le bout du tunnel.
Et en attendant, la FCPE a ouvert ce matin une cellule de conseil aux parents qui voudraient déposer des recours pour inégalité de traitement entre les élèves. On entendait des élèves plutôt philosophes sur cette situation tout à l'heure. Ce n'est pas le cas partout. Un proviseur de lycée d'Atis-Mons dans l'Essonne a été violenté par 2 élèves recalés aux oraux de rattrapage. Ils ont été bien sûr placés en garde à vue. En politique, Griveaux, Villani, Rançon, quel candidat pour la majorité présidentielle à Paris? Après des jours, des semaines de campagne et de débats, les 3 prétendants à l'investiture passeront tout à l'heure leur grand oral, non pas de rattrapage, mais l'exercice pourrait être malgré tout déterminant, même si au bout du compte c'est Emmanuel Macron qui choisira. Le verdict du jury de la Commission nationale d'investiture pèsera malgré tout, Karine Bécard, hein, un jury dont les membres sont eux-mêmes très partagés et d'origine très diverses.
Oui, à l'image des 2 présidents de cette CNI, un ancien ministre socialiste, Alain Richard, et une députée juppéiste, Marie Guévenoux. 16 membres au total, et vous y trouverez à gauche un ancien proche de Gérard Collomb, par exemple, Jean-Marie Gérier, et le maire de Vesoul, Alain Chrétien, qui a longtemps lui milité à l'UMP. Ajoutez à cela quelques référents de La République En Marche, tout de même, et plusieurs députés novices de la majorité. Voilà pour la couleur, ou plutôt les couleurs politiques. Maintenant, il faut savoir aussi qu'ils ne siègent tous ensemble semble que très rarement ils seront a priori cet après-midi, 6 ou 7 membres seulement, parce que chacun a ses activités et qu'elles sont respectées. La députée Marie Lebec, par exemple, rapporteure du texte sur le CETA, doit évidemment passer toute la journée à l'Assemblée. Sans oublier certaines situations où l'un des membres de la commission est dans l'obligation morale de se déporter. Ce sera le cas aujourd'hui pour Paris de Julien de Normandie, ministre très proche de Benjamin Griveaux. Il a déjà annoncé qu'il ne participerait ni à la discussion ni à la désignation. Ce qui pose, pour finir, vous avez raison, la question de l'autonomie de cette CNI. Son travail est technique. Elle analyse les différents projets des différents candidats, mais en dernier ressort, rien ne sera décidé évidemment sans l'aval de Matignon et surtout d'Emmanuel Macron.
Karine Bécard,
France Inter, Yves Decamp.
À l'étranger, c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau, ou plutôt une tasse de thé, mais ça secoue le landerneau diplomatique à Londres et Washington, où de part et d'autre, l'affaire des fuites fait des dégâts. Résumé des épisodes précédents, d'abord l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis qui câble à Londres des messages désobligeants pour Donald Trump, messages dont certains sont anciens, mais qui se retrouvent dans la presse. Aussitôt, Donald Trump réplique par une série de propos peu amènes en direction de Theresa May. Mais c'est à Londres que l'affaire s'envenime sur fond de rivalité entre les deux candidats à la succession de Theresa May, Boris Johnson et Jeremy Hunt. Marina Daras à Londres.
Donald Trump ne veut plus travailler avec l'ambassadeur britannique Sir Kim Darroch. Dans une série de tweets, le président américain critique ouvertement l'ambassadeur avant de s'en prendre à Theresa May et à sa gestion chaotique du Brexit. Pour Downing Street, cette fuite est regrettable mais ne devrait pas entacher la relation spéciale et durable entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Theresa May a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec les propos de Sir Kim Darroch mais qu'elle lui faisait pleinement confiance. Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer la source de cette fuite, en plus d'une enquête interne lancée par le gouvernement. Mais dans un contexte électoral, certains éditorialistes vont même jusqu'à penser que des alliés de Boris Johnson pourraient être derrière cette fuite pour déstabiliser son rival Jeremy Hunt, chef de la diplomatie britannique et outsider dans la course à la succession de Theresa May. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Il ne sera pas président de Huawei France. Jean-Louis Borloo a finalement décliné la proposition. Le géant des télécoms chinois est une entreprise de grande créativité, dit-il, mais il affirme avoir d'autres projets. Au même moment, ce matin, le réseau Huawei 5G est entré en service à Monaco, au grand regret du gouvernement français d'ailleurs, Élise Delève.
Une épine dans le pied d'Emmanuel Macron. Le président français est l'un des chefs d'État européens les plus méfiants à l'égard de Huawei. Il rejette toute idée de confier intégralement les installations sensibles du pays à la société chinoise et souhaite limiter l'empreinte de Huawei. Pourtant, l'équipementier chinois est depuis aujourd'hui à sa frontière. Peut-il pour autant la traverser ? Pour l'instant, non, et pour deux raisons. C'est Monaco Télécom qui a installé les antennes 5G de Huawei. L'opérateur assure qu'elle ne couvre que la principauté. Dès que l'on arrive sur le territoire français, on ne capte plus la compagnie monégasque et aucune compagnie française n'a développé cette technologie. Ensuite, parce que pour capter la 5G, il faut un téléphone portable compatible qui n'est pas encore vendu dans l'Hexagone. Un peu de répit pour la France qui doit voter cet été une loi visant à sécuriser les futurs réseaux 5G, une loi dite anti-Huawei.
Élise Delève. Zika dingue ou chikungunya, des mots qui nous sont devenus familiers. Malheureusement, c'est un mauvais signe. Le signe que ces maladies virales réservées aux pays tropicaux à l'origine gagnent du terrain dans le monde. Conséquence en partie du réchauffement climatique. Le moustique tigre qui les transporte colonise progressivement les pays tempérés, notamment la France métropolitaine où la population qui se retrouve exposée augmente d'année en année. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
C'est le sujet de votre chronique santé.
Oui, et Santé Public France publie justement aujourd'hui une étude sur la surveillance de ce moustique. Alors son petit nom, c'est Aedes albopictus, moustique tigre implanté en France métropolitaine depuis 2004. C'est l'espèce la plus invasive au monde. Il se développe très bien en ville et les zones périurbaines et il pique le jour, contrairement par exemple au moustique vecteur du paludisme. Alors ce moustique tigre, c'est lui qui véhicule ces maladies que vous venez de citer. Lorsque des personnes ont été infectées dans des zones où circulent ces virus, ainsi depuis le début de l'année, on recense déjà 187 cas importés de dengue, 22 de chikungunya et 3 de Zika. Et si ce sont les Alpes-Maritimes où il a initialement choisi de s'installer, eh bien on le trouve aujourd'hui dans 51 départements. Alors avec le changement climatique, les échanges, les voyages de plus en plus nombreux, ces viroses vont augmenter, mais il y a un plan anti-dissémination qui est donc évalué dans cette étude.
Alors et qui consiste en quoi précisément ?
Eh bien systématiquement, une enquête est menée en cas de suspicion de dengue, chikungunya ou Zika. La personne a-t-elle voyagé ou s'est-elle déplacée ? Ça c'est pour retrouver des moustiques ou des larves. Il y a ensuite un traitement insecticide des zones touchées, sauf que l'on s'est aperçu que seulement 26% des cas suspects avaient été confirmés lors d'une analyse biologique et que du coup on avait peut-être engagé des moyens pour rien, voire nocifs, puisqu'on sait que si on emploie des insecticides en trop grande quantité, on va créer des résistances. Alors pour Santé publique France, il vaut donc mieux limiter la démoustication aux seuls cas probables ou avérés, et c'est déjà ce que fait la région PACA, et une quinzaine de traitements inutiles ont ainsi été évités.
Et donc les mesures de prévention doivent être renforcées.
Évidemment, plus particulièrement dans les départements les plus touchés, dans le sud. Alors, veillez à ne pas laisser d'eau stagnante, là où les larves peuvent se reproduire, entretenir terrasses, jardins. Et pour les personnes qui reviennent de zones où le moustique tigre sévit largement, consultez rapidement un médecin en cas de fièvre.
La chronique santé de Daniel Messager à ce chapitre santé. Attention au surdosage de paracétamol, surdosage égale danger. L'avertissement devra figurer en rouge à l'avenir sur les boîtes d'au moins 200 médicaments très connus, comme le Doliprane ou autre d'Afalgan. Le paracétamol utilisé contre la fièvre et la douleur n'est pas sans risque à forte dose pour le foie. L'agence du médicament a donné 9 mois au laboratoire concerné pour modifier les boîtes de leurs médicaments. Allez, il sera l'objet de toutes les attentions sur la route du Tour de France. Un Français, Julien Alaphilippe, en jaune. On n'avait plus vu ça depuis 5 ans, depuis Tony Galopin dans le Tour 2014. Et encore, il n'était resté en jaune qu'un seul jour. Alors le coureur de la Quick-Step espère bien sûr tenir un peu plus longtemps. Fanny Lechavestrier, il ne devrait pas avoir de problème a priori aujourd'hui dans cette quatrième étape entre Reims et Nancy.
Ah oui, sauf un gros problème mécanique, une chute, on voit pas comment Julien Alaphilippe ne pourrait pas encore avoir le maillot jaune demain matin au départ du Tour de France pour une 12e journée. Il en profite en tout cas de ce maillot jaune. Il nous a dit ce matin avoir eu une nuit un petit peu difficile. Il a eu du mal à trouver le sommeil, mais ce matin, eh bien, il avait un large sourire comme d'habitude. Il y avait énormément de monde, de supporters autour de son bus d'équipe et il s'est dirigé vraiment acclamé hein, pour, vous savez, signer la feuille de départ. Julien Alaphilippe qui est applaudi tout au long du parcours. Il y a beaucoup de petits drapeaux jaunes aux couleurs du maillot jaune, bien évidemment. Des drapeaux bleu, blanc, rouge également qu'on agite à chaque fois à son passage. Julien Alaphilippe, hein, la coqueluche de ce Tour de France pour le moment. Et vous l'avez dit, ça faisait longtemps que l'on n'avait pas connu ça. 5 ans sans avoir un maillot jaune français. Alors tout le monde a envie d'en profiter un petit peu ici.
Fanny Lechevestrier, arrivée prévue de cette étape peu après 17h, et tout ça normalement sous le soleil, Élodie Calac.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France, à retrouver sur velux.fr.
Entre les Pyrénées et les plaines du sud-ouest, le Roussillon, les Cévennes, l'Auvergne-Rhône-Alpes, averses et orages au programme. Le littoral du Languedoc à la Côte d'Azur et la Corse s'en tirent mieux avec juste un risque d'ondée. Partout ailleurs, y compris sur le nord de l'Aquitaine, le soleil l'emporte. Un peu plus de nuages sur les Hauts-de-France. Les températures ressemblent à celles d'hier au nord mais baissent au sud. Comptez 21 degrés à Étretat, 23 à Lille, Metz et Aurillac, 25 degrés à Paris, à Agen, 28 au Mans, à Lyon, 30 degrés à Cognac et à Nîmes, 31 à Marseille, jusqu'à 34 degrés à Ajaccio. Ce sera mieux au sud demain, retour du soleil. Le risque orageux se décalera vers le sud des Alpes et la Corse, au nord du soleil aussi. Et pour les températures, 23 à 31 degrés, jusqu'à 34 pour le sud-est.